Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagnat et voici vos manchettes en ce mardi 13 octobre. Ouverture d'une maison de répit à l'année dans la vallée de la Matapédia. Troubles d'apprentissage, les conseillers d'orientation souhaitent intervenir davantage. Le salon Braille Tech en Belgique s'intéresse à la technologie pour les non-voyants. Et une deuxième saison pour les Lynx, une équipe pour enfants du spectre autistique à Saint-Jean-sur-Richelieu. La maison répit d'Âme Couy pourra désormais accueillir toute l'année des personnes atteintes de déficience intellectuelle, d'autisme ou de problèmes physiques. Le service existait auparavant, mais seulement pendant quelques semaines. La maison dessert les MRC de la vallée de la Matapédia, de la Matanie, de la Métis et de Rimouski. L'investissement de 200 000 $ a permis, par exemple, d'ajouter un élévateur et de mieux adapter les salles de bain. Jusqu'à 13 personnes par jour peuvent séjourner à la maison d'Âme Couy, selon la directrice des Amiram, un organisme qui aide les personnes handicapées. Pour Manon Lacroix, il est important de permettre aux familles d'avoir des moments de répit et de détente. Manon Lacroix constate que les demandes pour ce genre de maison augmentent de plus en plus. Normalement, c'est entre 30 à 40 personnes que je recevais et cet été, c'est monté à 79 personnes. Les maisons de répit existent un peu partout au Québec, mais elles étaient absentes de la région, selon la directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées du bas du fleuve, Louise Turcotte. Elle ajoute que les gens peuvent même profiter d'un service de transport spécialisé dans chacune des quatre MRC. Ainsi, Noëlla Franqueur peut prendre un peu de repos lorsqu'elle laisse pour quelques jours son fils Joël, qui est atteint d'une déficience intellectuelle. Donc là, au moins, il est en sécurité. Il est avec des personnes responsables, se réjouit-elle. Les conseillers d'orientation sont encore peu impliqués dans le parcours des jeunes avec des troubles d'apprentissage. L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et différents acteurs sur le terrain souhaitent que cela change. Un étudiant se présente un jour au bureau de Marie Ducharme, conseillère d'orientation en poste au Centre des services d'accueil et de soutien socio-économique de l'Université du Québec à Montréal. L'étudiant suivait un cours dans l'objectif de se réorienter alors qu'il était préposé aux élèves handicapés dans une commission scolaire depuis plusieurs années. Il adorait son travail, mais pour obtenir une permanence, il devait réussir un test de français, ce qui lui paraissait insurmontable en raison de ses troubles d'apprentissage dont il n'avait jamais discuté avec ses patrons. Cet étudiant n'avait pas besoin de se réorienter. Il était à sa place, affirme Mme Ducharme au Devoir. Il avait seulement besoin de quelques aménagements et outils afin d'avoir les mêmes chances que les autres de réussir le test. Elle, qui a travaillé plusieurs années au service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise, le CEMO Montérégie, n'a pas hésité à en discuter avec l'employeur. La commission scolaire m'a demandé ce qu'elle pouvait faire comme aménagement. Il y a une méconnaissance dans le marché du travail, affirme Mme Ducharme. Finalement, il avait seulement besoin d'avoir accès à ces deux logiciels pour la correction et la synthèse vocale, puis il n'a plus de temps pour se relire. Il a prouvé qu'il était capable de s'exprimer et qu'il avait le vocabulaire nécessaire pour rédiger ses rapports. Il a réussi le test et obtenu la permanence qu'il souhaitait depuis plusieurs années. Dans le milieu scolaire, on crée des plans d'intervention pour ces jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Ces plans visent généralement la réussite immédiate des différents cours, mais nous souhaitons travailler avec les commissions scolaires et les directions d'école pour qu'elles regardent davantage les perspectives de ces jeunes ainsi que les buts de leurs études afin de les motiver par des objectifs concrets, indique Laurent Matt, président de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et père d'un enfant avec un déficit d'attention et d'un autre avec un trouble du spectre de l'autisme. Il est convaincu que la participation des conseillers d'orientation à ces plans d'intervention aiderait la persévérance scolaire. Odette Raymond, personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage et membre d'Adaptec, un réseau de recherche sur les étudiants collégiaux et universitaires ayant des handicaps, est du même avis. Le dossier du secondaire ne suit pas l'élève. Pourtant, cela aide énormément de savoir tout de suite ce qui a été essayé avec l'élève, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Un autre grand défi pour les étudiants postsecondaires avec des troubles d'apprentissage est la réalisation de stages en entreprise. Doivent-ils parler de leurs troubles d'apprentissage ou pas? C'est évident qu'on leur conseille de le dire, mais si le jeune ne se sent pas en confiance, s'il craint que le fait de parler de son trouble lui nuise, il risque de vouloir le cacher, explique Mme Raymond. Il faut des milieux de stage et de travail inclusifs où les jeunes seront convaincus de pouvoir obtenir des aménagements. Téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs et leurs applications simplifient la vie de tous, y compris les personnes déficientes visuelles. On en trouvera la preuve en octobre en Belgique au Braille Tech 2015, un salon organisé par la Ligue Braille. Aujourd'hui, la plupart des gens disposent d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Ces outils sont connus de tous, de l'enfant en bas âge jusqu'au senior, et sont utilisés dans tous les domaines de la vie pour bricoler, se divertir, travailler, étudier, lire, se déplacer, faire ses courses. Il est donc légitime que les personnes aveugles et malvoyantes aient elles aussi accès à cette formidable technologie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'utilisation de ces outils ne leur est pas insurmontable et cela leur facilite même la vie. Chaque jour, les concepteurs de téléphones et de tablettes font des progrès en matière d'accessibilité. De nombreuses applications spécialement conçues pour les personnes déficientes visuelles ont déjà vu le jour et il existe, par exemple, un clavier amovible pour naviguer aisément sur un téléphone sans la vue. Au Braille Tech, le salon de la Ligue Braille rassemblant chaque année tous les fournisseurs belges de matériel adapté au handicap visuel, les visiteurs sont toujours épatés par les nouveaux produits et services disponibles. Ce sera encore le cas lors de l'édition 2015, durant laquelle ils pourront apprendre à utiliser facilement une tablette, comprendre comment lire un livre audio avec un téléphone et découvrir des applications spécifiquement créées à leur intention. Parmi celles-ci figurent notamment un système de lecture orale de sous-titres, un détecteur de couleurs ou encore une fonction permettant de photographier un document et de faire lire son contenu par une synthèse vocale. Plusieurs autres technologies attendent les personnes non-voyantes au Braille Tech. Le salon propose également des tas de solutions pour la vie quotidienne ainsi que des ateliers. À l'aréna municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, une formation hors du commun vient d'amorcer sa deuxième saison. L'équipe de hockey des Lynx est composée uniquement de jeunes atteints d'autisme à différents degrés. Il s'agit d'un projet unique en Montérégie et vraisemblablement au Québec. Une initiative utile, puisque l'intégration d'enfants autistes dans une équipe régulière peut s'avérer difficile ou même impossible. Le petit Antoine Paquin, membre des Lynx depuis l'an passé, était visiblement heureux de retrouver ses coéquipiers. J'aimais tellement ça l'an passé, je voulais revenir. C'est une belle expérience que j'ai eue, explique-t-il. Antoine parle déjà de jouer dans l'équipe l'an prochain. Karel Brossard et sa conjointe ont eu l'idée de mettre sur pied une telle équipe pour répondre aux besoins de leur fils Nathan. Ici, c'est les coachs qui s'adaptent aux enfants et non les enfants qui s'adaptent aux coachs. Sur la glace, pas de compétition, pas de pression et autant d'explications qu'il en faut pour amener les jeunes à bien saisir tous les rudiments du hockey. Au total, 9 entraîneurs s'activent auprès de 25 joueurs. Cette approche se veut bien différente des équipes régulières. Geneviève Duval, dont le fils Vincent est membre des Lynx pour une deuxième année, a les larmes aux yeux en parlant de cette initiative qui fait vivre aux enfants des moments magiques. Son fils est sujet à des crises de colère sous l'effet de la pression. Mais avec les Lynx, tout se passe bien parce qu'on met l'accent sur le plaisir de jouer et non sur la victoire. Les Lynx comptent cette année 25 joueurs de 8 à 15 ans. C'est deux fois plus que l'an dernier. Les responsables espèrent maintenant que d'autres équipes du genre verront le jour dans la région ou ailleurs au Québec. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés sont disponibles au vuesetvoix.com. Si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles au canalem@vuesetvoix.com. Bonne journée et bonne semaine tout le monde.